Le sujet du jour, ce sont les croyances limitantes. Nous allons explorer leurs origines et leurs manifestations. Aujourd'hui, je te propose un format un peu différent parce que nous allons explorer un profil bien particulier. Celui d'une personne qui se sent prisonnière de ses propres croyances limitantes. Elle aspire à changer, mais elle est paralysée par la peur de l'inconnu, le doute et une dépendance vis-à-vis du regard des autres. Cette personne pourrait être toi, quelqu'un que tu connais, ou simplement un miroir de nos propres insécurités. Cet épisode va détailler ce qu'elle ressent, d'où viennent ses émotions et comment elles influencent chaque aspect de sa vie. One, two, three, four. Dans l'introduction, notre focus du jour, ce sont les croyances limitantes, leur origine, comment elles se manifestent et leur influence sur les aspects de la vie. Commençons par le commencement, c'est-à-dire la définition de ce que sont les pensées limitantes. Vous savez que je ne fais absolument rien sans commencer par des définitions claires pour qu'on s'assure qu'on parle tous de la même chose, right? On parle souvent de pensées limitantes, mais le mot croyance est plus approprié. Prenons un exemple simple. Je peux penser à un bouc à trois têtes sans y croire, right? Ça n'affectera en rien mon comportement dans la vie. Je ne vais pas marcher dans la rue en en cherchant un parce que je sais que ça n'existe pas, même si j'y ai pensé. J'y ai pensé et c'est passé. Par contre, je peux croire aux vampires sans y penser tout le temps, mais cette croyance me pousse, par exemple, à ne jamais sortir la nuit. Que j'y pense ou pas, je ne sors pas la nuit. C'est-à-dire que mon comportement est consciemment ou inconsciemment dicté par cette croyance. Donc, une croyance limitante, c'est d'abord une chose à laquelle on croit fermement, consciemment ou inconsciemment, et qui, de ce fait, dicte notre réflexion, notre comportement au quotidien. Le fait qu'elle soit limitante signifie qu'elle nous limite dans notre réflexion et nos actions. Comme la croyance aux vampires me limiterait dans mes activités nocturnes, la croyance limitante nous impose le fait de ne ni penser, ni croire qu'on puisse réaliser quelque chose selon ce sur quoi la croyance porte. Une croyance limitante, comme son nom l'indique, nous limite. Elle dresse des obstacles, très souvent imaginaires, ça il faut le noter, très souvent imaginaires, mais dont l'impact crée un ressenti réel et profond, que ce soit dans la sphère personnelle ou professionnelle. En réalité, les croyances limitantes affectent également nos rêves et nos aspirations parce qu'elles sont dictées par elles. Quand on parle de rêves et aspirations, pour expliquer un petit peu mieux, pour que vous compreniez exactement de quoi je parle, croire par exemple qu'un homme ne peut pas nous être fidèle et ne peut pas être présent pour nous, nous pousse à ne rêver que d'un homme qui prendra soin des enfants sur le plan financier. Croire qu'on ne peut atteindre un type de salaire nous pousse à nous demander dans nos prières que 200 000 ou 300 000 pour satisfaire nos besoins immédiats et ceux de notre famille. C'est-à-dire qu'on n'ose même pas envisager d'autres besoins que ceux immédiats comme le logement, le transport, les repas et les factures. Là, je vais un petit peu trop loin, faisons les choses correctement. Cet épisode sera divisé en trois parties, notamment la situation de la personne, du moins du profil dont on va parler. Ses ressentis profonds et pourquoi est-ce que ces tentatives de changement échouent. On va commencer par la situation de la personne, mais avant de poursuivre, il faudrait qu'on trouve un nom à ce profil. On ne va pas l'appeler la personne pendant tout l'épisode. It's just not possible. Pour ce qui est de son nom, je propose Anne. Pourquoi? Parce que si vous ne saviez pas, outre le C point qui est effectivement mon nom, mon prénom est Anne-Marie et il y a quelques années encore, j'étais exactement ce profil-là. Je pensais être une bonne à rien et je n'osais même pas avoir de rêve si c'était des choses accessibles. C'est-à-dire que je n'osais jamais imaginer pouvoir ou réaliser quoi que ce soit. Donc, quelle est la situation de Anne? Ou alors d'Anne, c'est comme tu veux. Ce que je peux dire avec certitude, c'est qu'elle vit une réelle peur enracinée dans le changement. Anne est confrontée à une situation où elle se sent coincée, incapable de définir des objectifs concrets et encore moins de les atteindre. À la racine de cette paralysie se trouvent des pensées ou des croyances plutôt limitantes qui lui font croire qu'elle n'est pas capable de réussir, qu'elle n'a pas les ressources internes ou externes pour accomplir quoi que ce soit de significatif. Anne croit fermement que cette incapacité à avancer vient de son incapacité à agir. Elle est certaine qu'elle est une bonne à rien, qu'elle n'a pas assez de courage and whatever, whatever. Cette croyance d'Anne est pour moi l'un des aspects les plus intéressants des croyances limitantes. Parce que on ne sait pas qu'on a des croyances limitantes. On pense que c'est qui on est, tout simplement. Et on a la certitude que le souci vient de nous. Donc, on s'attelle à se changer soi. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir plus de courage, de se lancer, de faire les choses bien, mais ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que ce qu'Anne pense être le problème n'est rien d'autre que la conséquence du véritable problème. Vouloir régler la conséquence, c'est donner des coups d'épée dans l'eau, ou comme l'a dit Gérard Darmon, c'est chier dans la mer. Pardon my French. Les croyances limitantes viennent d'une accumulation de peurs et de doutes profondément ancrés et sont souvent liées à notre éducation et à notre environnement. Dans de nombreux cas, ces croyances sont héritées du passé. Anne a peut-être grandi dans un milieu où ses besoins n'étaient pas prioritaires, ou dans une culture où les attentes sociales étaient rigides. En conséquence, elle n'a jamais appris à s'affirmer ni à prendre des décisions pour elle-même. Elle se fie souvent à la vie d'autres personnes pour déterminer sa valeur, ses choix de vie, ses compétences et ses connaissances. Pour ce qui est du doute de réaliser quoi que ce soit ou alors de prendre des décisions par soi-même, je pense ceux qui sont là depuis longtemps et qui me lisent depuis longtemps, alors si ce n'est pas le cas, vous aurez l'occasion de le faire parce que toute la documentation existe sur Internet. Je vous mettrai les liens dans la description de l'épisode. J'ai écrit il y a 6 ans par là, j'ai beaucoup écrit sur le fait de devenir adulte. Le fait que je ne suis pas devenue adulte naturellement, j'ai décidé de devenir adulte parce que je n'avais pas les compétences d'une adulte jusqu'à l'âge de 31 ou 32 ans. Pour la simple raison que je n'ai jamais été autonomisée, c'est-à-dire que les autres ont toujours fait pour moi ce qu'il y avait à faire, ils ont toujours su mieux que moi ce dont j'avais besoin, ils ont toujours pris des décisions pour moi. Donc quand le moment de prendre des décisions pour moi-même est arrivé, je ne savais pas comment le faire. Je l'ai souvent dit ici, je n'ai pris aucune décision par rapport à mon parcours universitaire jusqu'au master. C'est-à-dire que mes parents, mes encadreurs ont décidé de la maternelle jusqu'au master, du chemin, des études que j'allais devoir faire. Ils ont décidé du type de vie que je vais mener. Ils ont décidé du type de personne que je suis parce qu'ils me l'ont dit, tu es comme ci, tu es comme ça. Et je l'ai enregistré. Et j'ai toujours pensé qu'ils savaient mieux que moi parce qu'ils ont toujours, ils sont toujours présentés. Ou alors, ils ont toujours occupé le rôle de figure d'autorité qui prend des décisions pour moi et qui sait mieux que moi qui je suis et ce que j'ai à faire. Donc, je ne suis pas devenue une adulte naturellement, parce que je ne suis pas une personne qui a été autonomisée. On ne m'a jamais laissé penser ou alors jamais laissé croire que je pouvais m'assumer toute seule, que je pouvais, malgré les salaires que je gagnais, que je pouvais m'occuper de moi-même. C'est-à-dire que j'ai toujours été sous la coupe de la famille jusqu'à l'âge de 31 ou 32 ans, jusqu'au jour où je décide par moi-même. Mais, avant ça, j'ai quand même fait un travail préalable de déconstruction pour arriver à ce résultat. Et ça, on va en parler dans la suite de l'épisode. Donc, parce que je décide par moi-même de devenir adulte et de vivre la vie d'une adulte. J'étais pleine de doutes, j'étais pleine de questionnements. Je pensais être inutile, je pensais n'avoir aucune compétence, je pensais n'avoir aucune connaissance. Je pensais réellement ne jamais pouvoir m'assumer et avoir toujours besoin des autres pour me dire où aller. Certaines des initiatives que j'ai lancées n'ont pas marché pour la simple raison qu'à un moment donné, j'avais besoin de gens qui allaient me dire quelle direction prendre pour la simple raison que je n'avais jamais été une personne au contrôle. Je n'avais jamais eu le volant, donc c'est ça que je faisais. Donc, quand je lançais une initiative et elle marchait, déjà, je doutais énormément du fait que ce soit grâce à moi que ça marche. Je me disais que c'était grâce aux autres. Ça peut être con, mais c'était grâce à... Déjà, c'était le fruit du hasard, premièrement. It wasn't about my efforts, même si je travaillais comme une dingue. C'était le fruit du hasard. C'était parce que, I don't know, les gens étaient assez... comment est-ce que je vais dire ça? Assez gentils pour avoir du regard pour mon travail. Et quand ça allait très loin, j'étais bloquée parce que personne, j'avais personne pour me dire, OK, from now on, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça. Et j'étais totalement perdue. Et très souvent, je laissais tomber des initiatives parce qu'à un moment donné, j'avais personne pour me dire, tu vas faire ci ou ça. Je me suis jamais dit, c'est à moi de prendre la décision, c'est à moi d'aller où je veux aller, parce que je n'ai même jamais pensé pouvoir savoir où je voulais aller, because je n'ai jamais été autonomisée. Je vais prendre un exemple très clair pour vous montrer la force du fait de vous laisser croire que les choses sont impossibles. C'est-à-dire que quand on vous laisse croire que les choses sont impossibles, vous intégrez la réalité selon laquelle vous n'y arriverez jamais. Je vais vous lire un petit texte, un tout petit texte sur Georges Danzig, qui est un mathématicien. Donc le texte dit ceci. Nous sommes en 1939 à l'université Berkeley en Californie. Georges Danzig arrive 20 minutes en retard à son cours de statistique. Son professeur, Jerzy Neyman, j'espère que je n'écorche pas son nom, a déjà écrit deux problèmes sur le tableau et a commencé son exposé. Penaud, le retardataire, prend place dans l'amphithéâtre aussi discrètement que possible, recopie les exercices sur son cahier et écoute attentivement la suite du cours. De retour chez lui, il s'attaque aux exercices qu'il trouve un peu plus difficiles que d'habitude. Plusieurs jours après, le doctorant remet enfin sa copie à son professeur en s'excusant pour son retard. Jerzy Neyman les range dans sa sacoche sans se prêter attention. Puis, aucune nouvelle. Georges attend le résultat de son travail avec une certaine inquiétude. 6 semaines plus tard, il reçoit la visite de son professeur tout excité. Les exercices dont il a trouvé la solution sont en réalité deux problèmes de statistiques célèbres et qui n'ont jamais été résolus. Arrivé en retard, Georges n'avait pas compris que si Jerzy Neyman les avait écrits sur le tableau en tout début de cours, c'était pour les présenter aux étudiants comme des défis. Or, les solutions trouvées par Georges en si peu de temps sont si élégantes que son professeur a obtenu la publication de l'une d'elles dans une revue mathématique prestigieuse. Georges Danzig a dit à propos de ces exercices, « Si j'avais su que les problèmes n'étaient pas des devoirs, mais deux célèbres problèmes non résolus en statistique, je n'aurais probablement pas pensé positivement, je me serais découragée et je ne les aurais jamais résolus. » Cette histoire permet de mieux comprendre la célèbre phrase de Mark Twain, « Il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. » Mais ne versons pas dans le dépassement des montagnes, revenons à nos moutons. Dire ou laisser croire à quelqu'un que tout lui est impossible poussera cette personne à ne jamais tenter quoi que ce soit. Pour un exemple un peu plus terre à terre et proche de nos réalités, je vais parler du boxeur Francis Ngannou. C'est Francis Ngannou, right? C'est Francis son prénom. Oui, Francis Ngannou, qui a bravé toutes les intempéries, les obstacles existants pour pouvoir arriver en France et être un boxeur professionnel, c'est-à-dire vivre son rêve. Il est parti de son village au fin fond du Cameroun. Il est arrivé en France illégalement. Il a essayé pendant longtemps par la mer, par les barbelés, par ci, par ça. And it never worked. But bottom line is, at some point, it worked. Et puis, il est arrivé en France. Et donc, quand il arrive en France, il se met à côtoyer les milieux camerounais qui étaient les Camerounais généralement, du moins, pas seulement les Camerounais, hein, mais les communautés, les personnes d'un même pays. Quand elles arrivent dans un pays étranger, généralement, elles se mettent ensemble et puis elles évoluent ensemble. Parce que c'est un petit peu ce dont on parle toujours, la recherche du confort. C'est-à-dire, ils sont partis de leur pays, mais ils ne veulent pas, l'inconnu n'est pas ce qu'ils recherchaient. C'est-à-dire qu'ils préfèrent aller vers là où c'est confortable, leur zone de confort, ce qui ne permet pas d'évoluer, ça on va en parler. Donc, Ngannou, dans une interview, dit que quand il est arrivé en France, il a commencé à côtoyer les milieux camerounais. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est qu'il y avait des gens qui étaient en France depuis des années, depuis des décennies, mais qui n'avaient jamais rien accompli. Lui, il est allé en France avec une seule idée, un seul objectif, devenir un boxeur professionnel. Et quand il osait partager son rêve avec les gens, il disait que non, franchement, ça ne sert à rien de penser trop grand, reste ici avec nous, la France est trop difficile, tu vois que nous, on est ici depuis longtemps, ça n'a pas marché, on s'est habitué, on a trouvé notre petit couloir et on court dedans calmement, on ne lève pas la tête, on garde la tête baissée, on joue au Ludo ici, and then this is how we live. Ne cherche pas à aller trop loin, viens, assieds-toi avec nous, joue au Ludo, mange ton boulet, discute avec nous du pays, and then this is that. Et il disait qu'il a vu des gens avec qui il est parti en France qui ont rejoint ces groupes-là et qui, à cause de la mentalité de groupe, ont commencé à penser par les autres, comme les autres. Pourtant, ils ont quitté leur pays pour laisser derrière cette mentalité-là. Mais comme elle était confortable, c'était ce qu'ils connaissaient le mieux, et ils sont assez contaminés par l'absence d'ambition et l'absence de possibilité d'oser de ces groupes-là. Ils ont eux aussi baissé les bras, ils sont devenus comme ces gens-là, à jouer du ludo à château rouge et à manger du dolé. Donc, Nga nous dit que lui, il ne les a pas côtoyés longtemps. Quand il s'est rendu compte de ce que ça pouvait devenir pour lui, il est parti, il ne les a pas côtoyés longtemps, il a continué son chemin et finalement, on sait tous ce qu'il est advenu de Nga. C'est pour dire que les gens, souvent, projettent leurs limites sur vous et vous laissent penser par leur figure, par le fait qu'ils occupent une place d'autorité. Par exemple, dans le cas de Nganou, ces personnes-là occupaient une place d'autorité parce que c'était des anciens. Ils étaient là depuis longtemps, donc ils savaient mieux ce qui était sur le terrain. S'il avait accepté les choses comme ça, il aurait fait comme les autres. Eux, ils savent mieux, ils ont déjà l'expérience, ils me disent que c'est comme ça, donc ils m'évitent des années et des années de déception. So, let me just follow them and then that will be that. Les gens projettent leur peur sur vous, les gens projettent leurs limites sur vous et en font votre réalité et vous devenez comme eux et c'est dommage et je prends toujours cet exemple du livre de Trevor Noah sur ce jeune homme là en Afrique du Sud qui vivait dans les townships, les ghettos et qui avait fini par trouver un travail quelque part et qui se levait le matin, s'habillait correctement pour aller à son travail et les gens dans le quartier ont commencé à le critiquer négativement, à lui dire que ils pensaient que ça allait durer, qu'ils ne pensaient pas que ça mettrait long, que c'était qu'une parenthèse dans sa vie, que de toute façon il n'était plus comme eux, les townships, il commençait à frimer. Tout simplement parce que il se levait le matin et s'habillait correctement. Hein. Oui, maintenant, il veut s'habiller comme les blancs, il veut faire comme les blancs, and whatever, whatever. Et le gars n'a pas supporté la pression, il a démissionné et il est revenu dans le township pour vivre comme les autres. C'est-à-dire, ne rien faire de sa journée, se réveiller à midi, traîner dans la rue et à se coucher le soir. So, la mentalité de groupe, et le fait que beaucoup de personnes aient eu un mauvais parcours fait souvent en sorte que, et ça on va en parler, que leurs rêves se transforment en aigreur. Et la force qu'ils auraient pu avoir en eux pour s'en sortir se transforme en une force négative qui tire les autres vers le bas, comme eux, ils ont été tirés vers le bas. Dans le cas d'Anne, notre profil, elle a enfoui à cause de tout cela ses aspirations, elle a refoulé ses besoins, elle a accepté de rester dans une zone de confort qui, bien qu'insatisfaisante, est au moins familière, on en a parlé. Sortir de cette zone l'effraie profondément. Elle sait qu'elle veut changer, qu'elle aspire à plus, mais ne peut se résoudre à franchir le pas. Et ça, je tiens à rappeler que sortir de la zone de confort une fois ne veut pas dire qu'on sortira de la zone de confort toutes les fois. C'est la preuve. La preuve, ce sont les personnes avec qui Nganou a fait ce périple-là, où il a pris la route, comme on dit souvent, pour aller en Europe. Et là, ils ont traversé le désert, ils ont été mutilés, blessés par des barbelés, ils ont failli mourir en mer de nombreuses fois, ils ont quitté leur zone de confort, ils étaient prêts à affronter tout cela. Et une fois qu'ils arrivent sur place, ils replongent dans la zone de confort, juste parce que quelqu'un leur a dit, ce que vous envisagez, bien que vous ayez déjà fait l'impossible, arrêtez-vous là, parce que ce que vous envisagez après est impossible. And c'est un travail constant, en fait. Ce n'est pas que tu te dis, je suis sorti de ma zone de confort aujourd'hui, ça veut dire que c'est à tout jamais. Non. Le fait de perdre de ne pas être vigilant là-dessus, et de se dire, je l'ai fait une fois, ça veut dire que je le fais toutes les fois, fait en sorte que quand on replonge dans la zone de confort, on n'en a pas conscience parce qu'on reste accroché à la victoire que ça a été d'en sortir une fois. On a l'impression que le fait d'en sortir une fois fait en sorte que, c'est-à-dire que valide tout le reste de notre vie parce que la preuve, c'est qu'on en est sorti une fois. Pourtant, c'était une exception. Ce n'était pas la règle, ce n'était pas la norme. Pour la partie 2, on va aborder les ressentis majeurs d'Anne, notamment le doute, la confusion, la peur et la honte. Les ressentis d'Anne sont le reflet de la lutte intérieure qu'elle mène en réalité. Chaque émotion qu'elle éprouve l'enferme davantage dans son immobilisme. On va explorer en détail chacune de ses émotions, leur origine et comment elle se manifeste dans son quotidien. Je pense que c'est ça la partie la plus intéressante. Comment est-ce qu'elle se manifeste dans son quotidien? On va commencer par le doute, qui est une question constante de soi-même chez Anne. Le doute chez Anne provient souvent d'une absence de validation extérieure durant son enfance ou sa vie d'adulte. Si elle n'a jamais reçu de renforcement positif sur ses capacités, elle en vient à douter d'elle-même. Cette attitude est renforcée par des expériences d'échec ou des remarques dévalorisantes faites par des figures d'autorité comme les parents, les enseignants ou même les collègues. Ce doute se manifeste sous forme de questions perpétuelles qu'elle se pose, mais qui ne mènent absolument nulle part. Elle remet en question tout ce qu'elle entreprend, mais ses interrogations ne lui permettent pas d'avancer, parce qu'elles n'ont aucun fondement, aucun objectif, aucun but. Par exemple, lorsqu'elle envisage de lancer un projet, elle pense « Suis-je vraiment capable? Ai-je les compétences pour arriver? Pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre ?» Ces questions, au lieu d'apporter des réponses, renforcent son sentiment d'incompétence. Et l'impact, c'est le doute crée une paralysie de l'action. Chaque pas en avant est suivi de 5 pas en arrière. Au lieu de tenter quelque chose, elle préfère rester immobile, persuadée que l'échec est inévitable. Et le plus beau dans ceci, c'est que Anne a tellement intériorisé le fait qu'elle est une bonne à rien que lorsqu'on lui fait un compliment, immédiatement, elle dévalorise le compliment. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans une situation où on vous dit par exemple « Oh, ta robe est très belle. Hé, hey, la robe, si... » Je l'ai acheté au marché, hein, c'était même seulement 500. You see, it's just like you cannot accept that someone can find your dress beautiful. You will find a way to downgrade the beauty of your dress. Tu vas dire à la personne, hé, la robe, si, je n'ai même pas eu cher, hein, juste 500 au marché. Tu n'as pas dit merci, en fait, tu n'as pas dit merci parce que tu es dans l'incapacité d'accepter un compliment. Par exemple, ton boss te complimente sur un travail que tu as fait. Tu lui diras, oh non, beau, c'est grâce à vous, vous m'avez bien encadré. C'est-à-dire que, au lieu de prendre le compliment et d'accepter que c'est le fruit de ton travail, tu vas plutôt attribuer cette réussite à ton boss, pas à toi. C'est grâce à lui que c'est comme ça. Donc, il n'a pas à me remercier, il devait plutôt s'auto-congratuler, parce qu'en réalité, même si c'est moi qui fais le travail, c'est grâce à lui qu'on a ces résultats. Et ça, c'est le comportement typique d'une personne qui a des croyances limitantes envers elle-même. Et the thing is, comme tout à l'heure j'ai dit, on n'a pas conscience qu'on a des croyances limitantes. Donc, est-ce que tu dirais que non, c'est de l'humilité? Ce n'est pas de l'humilité, c'est le rejet des compliments et le rejet de l'acceptation qu'on puisse faire quelque chose de bien, d'avoir quelque chose de beau, d'être quelqu'un qui soit apprécié tout simplement. Anne souffre également d'un gros manque de confiance en elle, c'est-à-dire une recherche constante de la validation extérieure. Le manque de confiance en soi chez Anne découle souvent de relations toxiques ou d'un environnement où elle n'a jamais eu l'occasion de s'affirmer. Elle a grandi avec l'idée que la vie des autres prime sur ses propres perceptions, et ses désirs. Cela peut être aussi lié à une éducation où la réussite est conditionnée à l'approbation d'une figure d'autorité. Même lorsqu'elle possède les compétences, elle pense toujours que ce n'est pas suffisant. Anne compare constamment ses compétences à celles des autres qu'elle admire, se disant qu'elle ne pourra agir qu'une fois qu'elle sera à leur niveau. Par exemple, elle pourrait avoir une excellente idée d'entreprise, mais elle attendra d'avoir la validation des autres avant de se lancer. Il suffira d'une seule critique négative pour qu'elle baisse les bras. Elle pense qu'elle ne mérite pas encore de réussir et que tant qu'elle n'aura pas atteint un certain niveau, elle ne peut pas agir. Ce manque de confiance l'empêche de saisir les opportunités qui se présentent. Elle se repose sur les autres pour avancer, pensant que seule elle est incapable. Même lorsque ces autres personnes ne lui apportent aucune aide concrète, elle persiste à croire qu'elle ne peut pas faire autrement. Ça, on a parlé, le fait de rechercher constamment la validation extérieure. Et c'est pas seulement même dans le, comment tu appelles ça, c'est pas seulement dans le cadre du travail, hein, ou de la réalisation d'objectifs professionnel, c'est aussi dans la vie privée. Par exemple, être avec un homme et lui demander tout le temps « Est-ce que tu me trouves belle? Est-ce que tu me trouves jolie? Est-ce que tu penses que je suis une bonne compagne? Est-ce que tu penses que si? Est-ce que tu penses que ça ?» C'est C'est une manifestation du manque de confiance en soi qui fait en sorte que on pense qu'on n'est pas assez belle, on pense qu'on n'est pas assez attirante, on pense qu'on n'est pas girlfriend ou wife material pour la personne. On pense qu'on ne mérite pas la personne avec qui on est. Et donc, pour s'assurer que elle n'est pas sur le point de nous quitter, because we know that vu qu'on n'est pas à la hauteur, elle va forcément nous quitter. Donc, il faut qu'elle nous rassure tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'elle nous aime, qu'on est belle, qu'on est la personne avec qui elle veut être, and whatever. Et ce genre d'insécurité se traduit très souvent par des comportements abusifs par Anne dans la relation. Dans la mesure où, si le compagnon sort avec elle et qu'il regarde notre femme, elle va littéralement l'agresser ou bouder ou faire une scène parce qu'il a trouvé l'autre plus belle qu'elle. C'est-à-dire que dans son imaginaire, c'est ça. Il a trouvé l'autre plus belle qu'elle et donc elle est sur le point de perdre sa place parce qu'il regarde d'autres femmes. S'il sort tout seul et qu'il rentre, elle va poser d'innombrables questions parce qu'elle a la certitude que quand il est sorti, il est certainement avec quelqu'un qui est meilleur qu'elle ou alors il a rencontré quelqu'un qui est meilleur qu'elle et aujourd'hui sa place est menacée. So, she will have abusive and toxic behaviors, mais elle ne se rendra pas compte qu'elle est la personne abusive parce qu'elle se dira que c'est la faute de l'autre qui est prêt à la tromper, qui est prêt à la quitter, qui est prêt à ci et à ça. Et elle, sa faute à elle, c'est de ne pas être une personne assez bien pour être avec le genre de personne avec qui elle est parce qu'elle ne le mérite pas. C'est juste le fruit du hasard ou whatever. Donc, il faut qu'elle s'accroche à tout prix parce que jamais elle ne trouvera quelqu'un comme lui. Elle n'est pas digne d'être aimée par quelqu'un comme lui. En fait, Anne est restée au niveau de l'enfant de 5 ans ou de 4 ans qui, à chaque fois qu'il fait, un dessin ou whatever, montre à ses parents dans l'attente que les parents lui disent que c'est très beau. Et c'est ça qui lui permet d'avoir sa validation. Si elle a eu des parents qui n'ont pas pris le temps d'apprécier ce qu'elle fait, si elle n'a pas eu des parents qui ont pris le temps de la valoriser et de lui montrer qu'elle a de l'importance, elle va chercher cette importance et cette valorisation toute sa vie à travers le regard des autres, à travers l'approbation des autres, et ça va juste miner sa vie et ça ne va pas, ça va avoir un impact très négatif parce que parfois elle sera même en position de faire de grandes choses, mais parce que une personne a dit une chose, elle a dit quelque chose, elle va juste abandonner. Et puis, dans ce cas-là, dans le cas d'Anne, ses radars sont toujours en mode à la recherche de catastrophes, c'est-à-dire à la recherche du négatif. Par exemple, elle aura une idée magnifique qu'elle va te présenter. Le simple fait que tu lui poses une question, toi, sans avoir d'arrière-pensée, tu veux juste comprendre quelle est son idée, elle va penser que ta question remet en doute tout ce qu'elle a présenté. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se dire, il pose, ou alors elle pose la question pour en savoir davantage. Ce sera, elle pose la question parce que ce que je lui ai présenté ne fait pas sens, elle n'a pas compris, donc c'est moche. You see? So, it works a very particular way. Et ça mine véritablement, les croyances limitantes minent véritablement absolument tous les aspects de la vie. Ce n'est pas seulement au niveau des objectifs ou whatever, non, c'est tout. Les aspects de la vie parce que les croyances limitantes modèlent toute la réflexion de la personne. Comme autre ressenti, on va parler de la confusion qui est un manque de clarté émotionnelle. La confusion vient du fait qu'Anne n'a jamais appris à identifier et exprimer clairement ses besoins et ses désirs. Elle a grandi dans un environnement où l'expression personnelle n'est pas encouragée, voire réprimée. Je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Anne sait que ses ressentis existent, elle sait comment ils la font se sentir, mais elle n'arrive non seulement pas à les expliquer aux autres, et elle n'arrive pas à se les expliquer à elle-même. On apprend à dire des choses parce qu'on nous apprend à les dire, right? Les encadrants nous apprennent à dire « j'ai faim » ou « j'ai soif ». Ils nous corrigent quand on dit « j'ai froid » à la place de « j'ai chaud ». Quand nos émotions et nos besoins sont invalidés, on est encouragé à, pour ne pas dire violenter, pour ne jamais les partager. Personne ne nous dit, non, tu n'es pas énervé, en réalité tu as peur. Non, tu n'as pas peur, en réalité tu inquiètes. On confond les ressentis, on n'arrive pas à mettre des mots dessus quand on parle des émotions. On pense que finalement, ça ne vaut pas la peine d'y penser quand on dit que ça a toujours été invalidé. Et on se convainc qu'on est le problème parce qu'on ressent cela alors qu'on ne devrait pas. Je tiens ici à préciser que le comportement de nos encadreurs ne part pas forcément de la méchanceté. Beaucoup d'entre eux ne sont pas équipés, n'ont jamais été équipés, tout comme nous, à comprendre leurs émotions, comprendre leurs ressentis, à mettre des mots dessus. C'est quelque chose qu'il faut fuir en réalité. Et donc, ils les fuient, ils nous apprennent à les fuir. Et en ce qui concerne nous, les enfants, nous qui avons été leurs enfants, c'est difficile pour eux d'avoir des personnes qu'ils encadrent, des personnes qui dépendent d'eux et qui leur demandent de gérer quelque chose qu'ils ne savent pas gérer pour eux-mêmes. Et généralement, ces limites-là se traduisent par de la violence. C'est-à-dire qu'il te demandera vraiment de te taire, il te battra, il te frappera, il te giflera ou whatever. Pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne sait tellement pas comment réagir qu'il réagit par la violence. On a été nombreux à être battus, pas parce que les parents étaient méchants, mais parce qu'ils ne savaient pas gérer leurs émotions, ils ne savaient pas gérer la frustration. Prenons le cas d'un enfant qui pose énormément de questions. À ce moment, on va lui demander de se taire. Pas parce que on est méchant, mais parce qu'on est frustré. Et comme on ne sait pas gérer la frustration, on réagit par un truc violent. On a une réaction violente qui, chez l'enfant, crée encore autre chose parce qu'il va estimer que poser des questions, c'est mauvais. Vouloir trop en savoir, c'est mauvais. Qu'il ne pose que des questions bêtes. Et ça, il va devenir une âne. Cette personne deviendra une âne qui, dans le futur, aura toujours besoin que les gens la rassurent sur le fait que ce qu'elle dit n'est pas con. Elle ne parlera pas parce qu'elle aura toujours l'impression qu'elle dit que des bêtises. And then, même pour se défendre, c'est-à-dire que si elle est attaquée, se défendre par ses mots sera impossible parce que pour elle, elle a enregistré comme croyance limitante que ses mots ne valent rien. Et le fait qu'elle a été violentée émotionnellement et physiquement parfois à cause de ce qu'elle a pu dire, la pousse à être une personne qui n'ose pas parler. Pour revenir à la confusion, l'humain ressent et pense avant de s'exprimer. Le langage humain est apparu il y a entre 350 000 et 150 000 ans, sachant que l'humain existe, lui, depuis plus de 7 millions d'années. C'est-à-dire qu'il pensait et il repensait, et du moins il pensait et il ressentait, tout comme une personne sourde et muette pense et ressent toute sa vie, ou comme un bébé pense et ressent avant d'apprendre à le dire. Et ça, je tiens à préciser que les personnes sourdes muettes ne parlent peut-être pas notre langage avec des mots, mais le langage des signes existe. Donc, elles pensent, elles ressentent, et c'est si jamais on leur apprend le langage des signes qu'elles pourront s'exprimer. Mais celles à qui on n'apprend jamais le langage des signes, ça ne veut pas dire qu'elles ne pensent pas et qu'elles ne ressentent pas. C'est juste que ça ne se traduit pas par des mots, mais la pensée et le ressenti existent. Ne pas savoir mettre les mots sur quelque chose ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça n'a pas de sens. Je ne suis pas certaine que chacun de nos ressentis ait un mot qui les qualifie. Et ça, j'ai fait une recherche extensive et j'ai trouvé Mario Giordano qui a publié en 2013 un livre intitulé « 1000 émotions qui n'ont pas de nom ». Et la description du livre dit ceci. Avez-vous déjà ressenti le bonheur de voir la mer pour la première fois, la peur de parler en public, la honte de rire du malheur des autres, le plaisir d'offrir, la joie enfantine des premières neiges, la compassion pour un jouet cassé, la fierté de trouver le mot magique, l'angoisse de la panne d'essence, le délice d'un rayon de soleil sur les pieds, la peur des monstres cachés sous le lit, le bonheur du petit déjeuner ensemble au lit, la tristesse de ne plus être un enfant, la délivrance de ne plus jamais être un enfant. Qu'elle soit noire ou en couleur, douce ou amère, secrète ou honteuse, printanière ou hivernale, ce sont les émotions fugaces du quotidien, ces petits moments de régal ou d'effroi que nous connaissons si bien et qui n'ont pas de nom. Le titre du livre, c'est « 1000 émotions qui n'ont pas de nom ». Est-ce que parce qu'elles n'ont pas de nom, ça signifie qu'elles n'existent pas, qu'on ne les a jamais ressenties? La réponse est bien évidemment non. Si on veut aller plus loin, on peut parler de la lexithymie, un trouble psychiatrique qui touche 10 à 15% de la population et qui a pour principale caractéristique la mauvaise régulation des émotions, ce qui les rend difficiles à identifier au sein de son propre corps, mais aussi chez les autres. C'est un trouble qui retentit dans toutes les sphères de la vie d'une personne, qu'elle soit personnelle, familiale, sociale ou encore amoureuse. Tout ceci pour dire que cette confusion qui nous laisse penser que nous sommes défaillantes est en réalité la conséquence de plusieurs phénomènes bien réels, selon ce qu'on a expérimenté dans notre vie, mais aussi selon les limites du langage humain. Tout simplement. Revenons à la confusion d'âme. Fermons la parenthèse et revenons à la confusion d'âme. Les manifestations de cette confusion sont nombreuses. Cette confusion l'empêche de poser des mots sur ce qu'elle ressent. Elle ne sait pas dire ce qu'elle veut, ni ce dont elle a besoin. Cela se traduit par un mal-être général, un sentiment de vide. Elle peut par exemple passer des heures à réfléchir à un problème sans jamais réussir à le formuler correctement. Je tiens à rappeler qu'on peut penser et réfléchir sans mots. On en a parlé tout à l'heure. Quand elle est en conversation avec quelqu'un, elle préfère se taire plutôt que d'exprimer ses désirs ou ses frustrations par peur de ne pas être comprise parce qu'elle n'a pas les bons mots et très souvent, généralement, on lui a dit qu'elle a raconté n'importe quoi because people were not getting her. L'impact est que cela la pousse à s'isoler émotionnellement. Plutôt que de chercher de l'aide ou des conseils, Anne s'enferme dans son silence, augmentant ainsi son sentiment d'être incomprise et seule. I know that a lot of us here are Anne, so let me hug you right now and tell you that I'm with you. I love you. I know what you are going through and I'm very sorry you're going through this. Parlons à présent de la peur, qui est une crainte paralysante de l'inconnu. Ici, on va aborder un thème qui parle à beaucoup d'entre nous, qui est l'auto-sabotage. I know that a lot of you people utilise ce mot sans vraiment comprendre comment ils s'auto-sabotent. Ils savent s'auto-saboter, mais ils ne peuvent pas dire comment et surtout pourquoi. La peur de l'inconnu et de ce que pourrait impliquer un changement provient de l'attachement excessif à sa zone de confort. En restant dans une situation connue, Anne évite de prendre des risques, même si cette situation est insatisfaisante. Et là, on parle du fait de se sentir bien dans l'insatisfaction, parce qu'on connaît tellement bien l'insatisfaction qu'on ne veut pas oser naviguer dans des eaux connues. C'est-à-dire qu'on rejette la satisfaction parce qu'on connaît mieux l'insatisfaction. C'est-à-dire qu'on va rejeter le changement qui pourrait nous mettre dans une situation différente, même si elle est positive, on la rejettera parce qu'on connaît mieux la douleur et la satisfaction et on sait mieux naviguer cela. I hope that what I said made sense. Cette peur se manifeste chaque fois qu'Anne envisage de changer. Elle se demande, et si les autres ne m'acceptent pas dans cette nouvelle version de moi-même? Et si je perds mes amis, ma famille? Elle redoute que son entourage la rejette et cette perspective la paralyse. Je sais qu'on est nombreux à avoir connu ça, on est nombreux à connaître cela. Cela va jusqu'à la pousser à ne pas s'affirmer dans les situations du quotidien, comme demander une augmentation ou refuser de rendre un service qui la dépasse. Parce qu'elle a peur de ce que la personne pensera d'elle si elle dit non, et parce qu'elle a peur que la personne ne veuille plus la côtoyer si elle dit non, Anne dit toujours oui, même aux requêtes les plus incongrues. Et c'est comme ça qu'on devient un people pleaser. Je pense qu'on aura tout un épisode sur le people pleasing. Si jamais vous voulez que j'en fasse un, dites-le moi en commentaire sur Spotify. Si jamais vous écoutez l'épisode sur Spotify, vous avez la possibilité de... How do you call this thing? La possibilité de faire des commentaires sur les épisodes sur Spotify. La vie d'Anne est marquée par l'immobilisme. Elle reste dans des situations toxiques, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, par peur de perdre l'approbation de ceux qui l'entourent. Dans ce cas précis, ce que les nombreuses Anne que nous avons été ou que nous sommes ne savent pas, c'est qu'elles souffrent de la peur de l'abandon. Tout à l'heure, on a parlé du fait que cette confusion et tous les ressentis qui vont avec la situation d'Anne viennent très souvent du fait que les figures d'autorité ont fait de leur approbation, l'approbation divine, l'approbation finale, l'approbation qui définit qui Anne est. Et très souvent, les encadreurs, les parents, les aînés, les grandes sœurs, les grands frères, les enseignants ont laissé penser aux petites Anne que nous avons été que nous ne sommes pas de bonnes personnes si nous ne suivons pas. C'est-à-dire que nous ne sommes bonnes que quand elles sont satisfaites de nous. Voilà. Nous ne sommes bonnes que quand elles sont satisfaites de nous. Donc, notre valeur en tant que personne dépend profondément du fait qu'elles nous trouvent bien ou non. Il ne faut jamais aller à l'encontre de ce qu'elles veulent si nous ne sommes pas de bonnes personnes, parce que comme nous cherchons au quotidien leur approbation, ne pas l'avoir serait pour nous la fin de notre vie, la fin de notre existence, la fin de qui nous sommes, notre perte en réalité. Donc, il y a cette peur de l'abandon-là qui fait en sorte qu'on s'accroche à l'approbation des figures d'autorité, même si ce qu'on vit n'est pas aligné à ce qu'on veut. Ce qu'on veut ne compte pas. Le plus important, c'est le fait que nous soyons adoubés par les figures d'autorité. Et le plus beau dans cette situation d'Anne, c'est qu'elle déteste qui elle est, parce qu'elle déteste la vie qu'elle vit, qui est une vie qu'elle n'aime pas, mais que les autres apprécient. So, elle est bien obligée de la vivre dans sa réalité. Et elle déteste qui elle est, parce que c'est très loin d'être qui elle a envie d'être, mais cette personne-là est adoubée, approuvée par les autres, donc c'est la seule personne dans sa réalité qui peut vivre. Et elle déteste qui elle peut devenir si jamais elle change, parce que cette personne sera détestée par les figures d'autorité. C'est-à-dire que qui elle est approuvée par les figures d'autorité, mais détestée par elle. Et qui elle peut être est appréciée par elle, mais détestée par les figures d'autorité. Et comme les figures d'autorité sont les figures suprêmes, elle préfère se détester plutôt qu'être une personne que les autres vont détester. On parle beaucoup de cette peur-là quand il s'agit de tenir tête à l'entourage, d'être là pour soi, de ne plus se laisser marcher sur les pieds. Mais on parle moins de cette peur quand elle se manifeste comme le rejet de la réussite, la peur d'accéder à de meilleurs postes, d'avoir plus d'argent, d'être successful, une peur qui se manifeste par l'auto-sabotage. L'auto-sabotage est une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme inconscient, en adoptant le masque d'arguments rationnels. Parce que oui, les raisons qu'on peut avancer pour justifier l'autosabotage ont souvent l'air très rationnelles dans notre réalité. L'autosabotage et tous les comportements qui y sont reliés sont des actes inconscients apparaissant dans des moments, je vais dire, de grands changements dans la vie des individus, peu importe leur nature. Ces comportements ont tendance à gêner l'accomplissement des objectifs ou buts via des automanipulations inconscientes. On va par exemple faire l'effort de ne pas rendre à temps le rapport qui aurait pu faire pivoter notre carrière. On va faire l'effort de ne pas réviser alors qu'on a tout le temps pour pouvoir se dire après que les mauvais résultats, de toute façon, ce n'est que ce qu'on peut avoir et qu'on n'aurait pas pu réussir quoi qu'il arrive. On va éviter de dire nos aptitudes par crainte inconsciente d'avoir ce poste qu'on convoite. Et en parlant de ça, j'ai un exemple super intéressant. Il y a une jeune dame qui a fait un témoignage super intéressant sur les réseaux sociaux. C'est une jeune dame dont les supérieurs pensaient à la promouvoir en réalité pour un poste au Moyen-Orient. Et il fallait qu'elle sache parler arabe, ok? Donc, quand elle a eu son interview, on lui a demandé si elle parlait arabe. Et la meuf était en mode, oui, je parle arabe. On lui a demandé si elle parlait bien arabe. Elle a dit, je parle arabe, voilà, je me bats. Et la personne qui était promue, c'est un de ses collègues, qui ne parlait pas du tout arabe, en fait. Et donc, quand elle a demandé au collègue, mais pourquoi est-ce que toi, tu as été pris? Le gars lui a dit que, il a fait un crash course in Arabic, donc il connaît les deux, trois bases pour pouvoir communiquer, c'est ce qu'il a dit, et on a compris qu'il peut communiquer en arabe, and it was fine. Il dit qu'il a juste, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste mis en avant cette compétence-là, and he was fine. Et elle se rend compte que quand elle, on a demandé si elle parlait arabe, elle a dit que bien, c'est bas. Point. Pourtant, la meuf avait un master en arabe. C'est-à-dire qu'elle a étudié la langue de manière extensive. Mais comme, énormément, comme je dis toujours, il n'y a pas seulement une seule raison à quelque chose qui arrive. Comme elle est une âne, comme elle n'a pas l'habitude d'avoir de la valeur à ses propres yeux, comme elle minimise tous ses achievements, quand elle a commencé à parler arabe, elle a dit vaguement. Et c'est-à-dire qu'elle a fait l'effort de se minimiser et de s'auto-saboter, non seulement parce qu'elle n'arrive pas à se valoriser, mais parce qu'il y a la peur de ne pas pouvoir remplir les objectifs, atteindre les objectifs de l'entreprise au moins. Non, c'est-à-dire qu'elle aurait eu un poste d'autorité, elle aurait géré certainement un département ou whatever, and she's like, est-ce que j'ai les compétences? Elle va à l'entretien et elle s'auto-sabote, c'est-à-dire qu'elle s'auto-sabote totalement. Elle se sabote elle-même. Pourtant, l'autre, quand il vient, il a fait un crash course en arabe, il s'est dit bonjour, comment tu vas, whatever, je veux un taxi. Et lui, il a su valoriser ça Et c'est comme ça qu'elle a été embauchée. Est-ce que tu penses qu'elle va aller maintenant voir les boss pour dire « Oh non, en fait, moi, j'ai un master en arabe. » C'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Et ça, c'est pas que c'est une âne, mais c'est aussi parce qu'elle est une meuf. C'est-à-dire que la personne qui a eu un poste, c'est un homme qui, lui, a l'habitude de valoriser même les plus petites... How do you call this thing? Les plus petits achievements, même s'ils ne sont pas véritablement des achievements. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Est-ce que les hommes ne sont pas des ânes aussi? Les hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont des ânes, mais la société permet aux hommes de plus se mettre en avant. C'est-à-dire que c'est plus accepté, c'est même encouragé qu'un mec se mette en avant, et c'est découragé parce qu'une femme qui se met en avant, c'est une femme qui est pédante, c'est une femme qui ne sait pas rester à sa place. On va pas parler de ça aujourd'hui, you know what I mean. Right? Donc, la meuf n'a pas eu le poste parce qu'elle a dit « Oh, je me bats !» Pourtant, l'autre qui ne se bat même pas a valorisé, il a mis en avant son crash course et il a eu le poste. This is Anne. Les exemples sont nombreux. Hein? On va se convaincre que ce qu'il nous faut, c'est un deuxième enfant alors qu'on est en plein postpartum parce qu'on a aimé être enceinte, parce que notre enfant a besoin d'un frère ou d'une sœur, ou parce que selon la culture, un seul enfant, ce n'est pas bon. Donc, on est très certain que it's a good thing for us to have another kid, bien que le fait d'avoir eu le premier enfant est en train de nous détruire psychologiquement. On ne cherche même pas à how do you call this thing? C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas le temps de guérir, non. This is what we have to do and this is what we are going to do. Et c'est comme je dis, on trouve véritablement, on arrive vraiment à trouver des justificatifs rationnels pour s'auto-saboter. C'est-à-dire, tu diras, mon enfant sera seul, I don't want for him or for her to be alone, so I have to have another child. C'est logique, ça fait sens. Du coup, tu te dis que ton auto-sabotage is not auto-sabotage, it's something logical, it's something that you have to do. On peut aussi parler d'auto-sabotage quand on fait tout pour ne pas être heureuse parce qu'on a connu que le chaos et on ne sait pas naviguer à travers autre chose. Je prends un exemple simple. Les meufs qui sont toujours en mode « Oh, moi, je ne sais pas pourquoi je n'attire que des cons. » Tu n'attires pas des cons, tu recherches des cons. Pour la simple raison que tu es tellement habitué aux cons que tu sais naviguer avec les cons. Donc, quand un moins con se présente, tu ne le veux pas. C'est-à-dire que ce qu'il t'envoie comme signaux, c'est pas quelque chose que tu reconnais, sauf tu vas le fuir. Et tu vas aller retrouver un con. Et ça va te, comment je vais dire ça? Tu seras rassuré quand il va se comporter comme un con. Parce que tu te diras, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit, je n'attire que des cons. Tu vas fuir le moins con parce que tu ne sais pas comment naviguer avec un moins con. Et que dans ton imaginaire, en fait, dans ton imaginaire même, tu n'arrives même pas à picture comment tu peux vivre avec un moins con. Parce que toute ta vie, peut-être dans les couples avec lesquels tu as grandi, les hommes n'étaient que des cons. Tu n'as eu que des modèles d'un con. So, this is what you know best, actually. Et j'en ai parlé ad nauseam dans l'épisode « Saboter inconsciemment sa vie amoureuse ». J'ai parlé de mon expérience et de la raison pour laquelle je n'aimais que les cons. Le Zadi aujourd'hui, mon compagnon avec qui je suis aujourd'hui, il n'avait absolument aucune chance avec moi avant que je ne fasse mon processus de déconstruction parce qu'il n'est pas con. Et donc, un mec pareil m'aurait abordé il y a une dizaine d'années que je n'aurais même pas regardé. Je n'aurais même pas regardé parce qu'il n'avait pas ce... On appelle ça le côté mystérieux, on appelle ça... il est ténébreux, tu vois, on appelle ça le challenge. C'est-à-dire que tu veux te battre pour que le gars n'ait que toi dans sa vie parce que c'est ça le vrai amour. C'est-à-dire, il va te tromper 1 million de fois, mais il revient toujours vers toi. C'est-à-dire, ça te valorise parce qu'il y a de la compétition et toi, tu es celle qui gagne la compétition. This is what you know best. C'est ce à travers quoi tu sais naviguer. C'est ce dans quoi tu es à l'aise. This is your comfort zone. Je vais vous parler d'une histoire qui est très drôle. Il y a une jeune dame que je connais qui dit qu'elle n'attire que les cons, ok? Et donc, j'ai eu la chance ou la malchance d'être première loge du début de sa dernière relation. Quand elle a rencontré ce monsieur, on lui a dit clairement que le monsieur est en couple. Elle a dit, oh non, je le veux vraiment, so I'll do my best to be with him. She called her family, I found the right man and whatever, whatever. Et le gars vivait avec sa copine chez lui, sa fiancée, parce que c'est une fiancée, c'est pas une copine, c'est sa fiancée. Donc, c'est un homme infidèle, premièrement. C'est-à-dire que she's fine with being the other woman because la compétition, c'est-à-dire que dans son inconscient, l'infidélité is something natural parce que, voilà, elle est la compétition, elle doit gagner. She doesn't care about the fact that he is with someone else. Mais bon, ça sont les processus mentaux inconscients. Let's not dive in it for now. Donc, elle décide d'être avec le gars. Et un jour, elle rencontre la fiancée du gars. Elle se fâche contre le gars. Et puis, il vient chez elle, to apologize and whatever. Elle retombe dans les bras du gars. And this is exactly what I'm talking about. Quand je parle des modèles qu'on a eus. Laissons la famille, laissons les encadreurs, prenons les films, prenons la musique. Je parle toujours du R&B because I'm such a huge fan of R&B, mais je reste consciente de l'impact profondément négatif du R&B dans ma vie amoureuse quand j'étais plus jeune. C'est-à-dire que le R&B et les films d'amour et les harlequins et les Barbara Cartland and whatever glorifient la douleur dans l'amour. C'est-à-dire que ça glorifie le combat, ça glorifie le fait que tu dois t'arranger pour être celle qui est choisie. Il t'a trompé, c'est pas grave, il est venu s'excuser. And this is so romantic. And make-up sex is the best sex, right? C'est ce qu'on dit souvent. So, il m'a fait ça. Et c'est-à-dire qu'on est dans des relations où on recherche le drame parce que la réconciliation est présentée comme quelque chose de beau, quelque chose de sexy, quelque chose de c'est-à-dire que de passionate. So, le gars revient chez elle, supplie, elle retombe dans ses bras. Et finalement, elle se rend compte qu'en réalité, elle n'est rien d'autre qu'une parmi tant d'autres et que lui, il restait avec sa fiancée. She doesn't know that I know everything, right? Because this is not my business. I just happened to be there when it happened. Et donc, elle vient me voir et elle me dit, we need to have a conversation parce que je ne sais pas pourquoi je n'attire que des cons. And I was like, dude, you are so fucked up. Parce qu'en réalité, on t'a dit clairement qu'il est en couple. Tu as vu la fiancée. But you were okay with that. Parce que pour toi, le combat pour être la personne choisie est plus important because c'est ce que tu navigues le mieux. This is what you know. This is the reality you know. Et tu ne te rends même pas compte que ça, c'est une croyance limitante en réalité. C'est-à-dire que tu dans ta tête, dans ta vie, dans ton être, tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à process le fait que tu vaux mieux que ça. Et chaque fois, ces relations finissent mal, just because she goes vers le mauvais mec. And this is exactly who I was. Et comme je l'ai déjà parlé ad nauseam dans l'épisode saboté concernant sa vie amoureuse, c'est de l'auto-sabotage, tout simplement. L'auto-sabotage se manifeste également par le fait de saboter soi-même son bonheur. C'est-à-dire que la croyance limitante à ce niveau, c'est penser qu'on ne mérite pas le bonheur parce qu'on n'a jamais été dans un environnement où le bonheur nous a été présenté comme quelque chose qui est bon pour nous ou alors quelque chose qu'on pouvait avoir ou alors quelque chose à quoi on a accès. Let me talk to you about someone that I love dearly, someone that had a very tragic childhood, ce qui se manifeste aujourd'hui dans la quarantaine passée par le sabotage quand il s'agit de vivre le bonheur. Donc cette personne est un homme, mais c'est un homme certes, mais c'est une âne, because women go through that as well. Être une âne, ce n'est pas forcément être une femme, c'est être une personne qui a toutes les caractéristiques d'âne, ok? Donc, cette personne-là, c'est un homme qui a eu une enfance très malheureuse, qui a vécu des drames familiaux énormes, qui est une personne qui n'a pas été heureux dans sa vie. C'est-à-dire que, qu'il s'agisse de l'enfance ou de l'adolescence, ce n'est pas une personne qui a été heureuse et qui était dans de bonnes conditions, où l'amour lui a été montré comme quelque chose qu'il mérite, mais quelque chose qu'on peut ressentir envers lui. C'est une personne qui n'a jamais été célébrée. Ses anniversaires n'ont jamais été célébrés. Les cadeaux, c'est pas quelque chose qu'on lui faisait. So he had a very difficult childhood. Aujourd'hui, la quarantaine passée, déjà, cette enfance difficile a créé en lui des croyances limitantes selon lesquelles le bonheur n'est pas quelque chose qui est fait pour lui. Parce que chaque fois qu'elle a essayé même de demander ou alors de manifester le besoin qu'on lui montre de l'affection, ça a été la réponse qu'elle a eue était une réponse violente. Des insultes, des coups. So, la croyance limitante, c'est je ne mérite pas l'amour. je ne mérite pas la joie, je ne mérite pas qu'on fasse attention à moi, je ne mérite pas d'être aimé convenablement. Donc, cette personne s'est mariée avec une femme équilibrée, ok? Une femme qui, elle, a vécu dans une famille où l'amour était au centre de tout. Elle a été câlinée toute sa vie par ses parents, par ses frères et sœurs. She's really a family person. She's really a nice woman. She's a very nice woman, ok? Donc, il est marié avec a very nice woman qui est prête à le célébrer toute la journée, qui est prête toute la journée à lui dire qu'elle l'aime, qui est prête à être là pour lui. All she wants is to love him. And to show him that she loves him. Okay? Do you know what happens? Chaque fois qu'il y a une célébration qui se prépare, une célébration, c'est chaque fois que lui doit être célébré, la veille, il crée une crise. Et c'est au moment de célébration, ce que j'ai pu remarquer, c'est les suivants. C'est son anniversaire, la Saint-Valentin, et les anniversaires de mariage, ou alors les anniversaires de sa femme également, ok? Chaque fois que ces jours-là, chaque fois que ces jours-là arrivent, la veille, c'est-à-dire que la veille, il crée une crise. C'est-à-dire qu'il peut partir de quelque chose d'aussi bête qu'une cuillère mal placée. Ça va créer une énorme crise où ils ne se parleront plus, où ils seront énervés, où finalement ils ne vont rien célébrer. Et une fois que ce jour-là est passé, il redevient normal. And the funny thing is, il ne se rend même pas compte que c'est ce qu'il fait. Il ne se rend même pas compte que c'est ce qu'il fait. En réalité, il a tellement, la croyance limitante fait tellement partie de lui aujourd'hui que le simple fait d'être dans une situation où il sera célébré ou alors où il doit, il sera au centre de l'attention et que de l'amour va lui être montré et que il va recevoir l'affection des gens. He just doesn't want that and he will find a way de rejeter ce moment. And to him it's just life as usual, business as usual. Mais la vérité c'est que il est profondément affecté par sa croyance limitante et il rejette aujourd'hui toute manifestation d'amour envers lui, toute manifestation d'attention positive envers lui, même les cadeaux le rendent mal à l'aise. C'est-à-dire que it's just so difficult to him d'être au centre de l'attention pour des raisons positives. Parce que généralement, il était au centre d'attention parce qu'il avait fait une bêtise, parce qu'il avait fait ci, parce qu'il était un enfant difficile, parce qu'on l'aimait pas assez, parce que c'est pas comme ça. Il était au centre d'attention pour être grondé, pour être battu. Et là, il ne sait tellement pas, c'est la seule chose envers laquelle, à travers laquelle il sait naviguer. Il sait naviguer quand il est au centre d'attention négative. Quand il est au centre d'attention positive, he doesn't know what to do, he's totally lost. Donc, inconsciemment, il fait tout ce qu'il faut pour ne jamais se retrouver dans cette zone d'inconfort-là. So, il se retrouve avec une femme, et le fait d'avoir épousé cette femme-là est une preuve qu'inconsciemment, she is what he needs. Because that's the one he went and married. Mais il n'est tellement pas prêt à accepter ce qu'elle a à lui offrir qu'à la fin de la journée, il l'a fait souffrir. Parce qu'elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'aimer et lui montrer qu'elle l'aime. Et tout ce que lui, il demande au quotidien, c'est qu'elle lui fiche la paix. C'est qu'elle n'ait aucune, how do you call it? Toute marque d'affection, he doesn't like it. Quand elle lui dit, par exemple, je t'aime, il va répondre par un grognement avec les sourcils froncés. And he's not... He is so affected by the life he lived to the point that les croyances limitantes qu'il a sont devenues une part de lui et il rejette, il fait l'effort de ne jamais se retrouver en situation positive, en situation affectueuse, en situation d'amour. Et ça, c'est pour vous dire à quel point les croyances limitantes peuvent jouer sur même qui on finit par être. Parce que les gens se disent, oh non, c'est juste les objectifs. Oh non, c'est juste que je n'arrive pas à oser. Mais ce n'est pas ça. Ça va bien plus loin que ça. Le fait que tu n'arrives pas à oser n'est qu'une conséquence. Ce n'est qu'un symptôme, en fait. Un symptôme. But what happened in you, ce que ton inconscient crée en toi, you just cannot imagine what you're going through on a daily basis in your brain. You just cannot imagine. Les deux prochains ressentis sont la honte et l'envie et l'épisode 68 du podcast explique leur mécanisme en profondeur. Il est intitulé « Faire face à la honte et à l'envie » donc il est très facile à trouver. Je vous le recommande vivement parce que ce sont des ressentis majeurs, mais je ne vais pas dive in, je ne vais pas expliquer en profondeur comme les autres ressentis parce que j'ai déjà fait dans cet épisode-là. Donc, la honte, une autocritique constante. La honte Khan, qui est notre personnage ici, on ne l'oublie pas. La honte Khan ressent provient de son incapacité à se défendre, à dire non ou à s'affirmer. Elle a probablement été critiquée ou rabaissée dans le passé, ce qui a renforcé son sentiment de ne pas être à la hauteur. Elle pense que ses échecs et ses limitations sont visibles aux yeux de tous. La manifestation, c'est qu'elle est honteuse de qui elle est, de la manière dont elle est perçue par les autres. Elle se voit comme quelqu'un de faible, incapable de se défendre, et cette honte devient un poids qu'elle porte constamment. Paradoxalement, Anne a aussi honte de la personne qu'elle pourrait devenir si elle se libérait de ses limitations, parce que cette nouvelle version d'elle lui semble trop éloignée de son image actuelle. Elle a honte d'oser être quelqu'un d'autre, elle a honte du regard que les autres porteront sur cette personne, de ce qu'ils pourraient penser d'elle, des questions qu'ils pourraient se poser. L'impact, c'est que la honte la retient de prendre des initiatives, elle craint d'être jugée, et préfère rester dans l'ombre, invisible aux yeux de ceux qui pourraient la critiquer. Et c'est très curieux parce que, pas curieux, mais c'est intéressant parce que cette honte-là est intimement liée à un point qu'on a noté tout à l'heure quand on disait que Anne déteste qui elle est et elle déteste aussi qui elle pourrait être parce que qui elle pourrait être ne sera pas acceptée par les figures d'autorité. Et très souvent, quand on parle de figures d'autorité, À l'âge adulte, c'est-à-dire la vingtaine, la trentaine, la quarantaine et tout ce qui va au-dessus, les figures d'autorité peuvent aussi être des amis. Ce ne sont pas seulement les parents, les encadreurs, whatever. Ça peut aussi devenir des amis. Les amis auront un profond ancrage dans nos vies. Et comme on est des personnes, du moins comme les personnes comme Anne, disons Anne, comme Anne est une personne qui a un grand besoin de validation, le manque de validation par ses amis fait en sorte qu'elle ne se lance pas. C'est-à-dire que là, elle a non seulement honte par rapport à ses parents, ses encadreurs, whatever, mais elle a aussi honte par rapport à ses amis qui occupent une très grande place dans sa vie et elle souhaite que ses amis l'acceptent toujours, toujours, toujours. Donc, elle n'ose jamais faire quelque chose qu'elle pas forcément même qu'ils vont critiquer, mais qu'elle pense dans son inconscient, dans sa réflexion et dans son imaginaire qu'ils vont critiquer. Prenons un truc simple. Anne achète une nouvelle robe. Elle la porte et sa copine lui dit « Oh, tu es en jaune aujourd'hui, c'est rare. » L'inconscient de Anne, du moins la réflexion de Anne se met en marche. Elle a dit que c'est rare, ça veut dire que est-ce que le jaune ne me va pas, ça veut dire que est-ce que j'ai fait une erreur en mettant du jaune alors que souvent je mets pas de jaune, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Et là, la robe jaune, on ne la met plus jamais. Non seulement on ne la met plus jamais, mais en plus de ça, toute l'après-midi, au canapé avec ses amis avec la robe jaune, elle ne parle pas, elle est renfermée parce que elle ne se sent pas bien, ne se sent pas à l'aise. C'est sûr que les amis se disent que la robe est laide, comme ce n'est pas une couleur qu'elle porte souvent. C'est sûr que les amis. So she's just dans son cerveau, c'est juste comme un hamster qui court dans sa roue. And it's just spinning and spinning and spinning and spinning. Et là, elle a honte en fait. Elle a honte d'être dans cette robe jaune. Elle a honte d'être moche dans sa robe jaune. Elle a honte du fait qu'elle a fait quelque chose de différent. Elle a honte. In fact, this is exactly what happens with les croyances limitantes. This is exactly what happened. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la honte la retient de prendre des initiatives. Elle craint d'être jugée et préfère rester dans l'ombre en réalité. J'ai bien dit, elle craint d'être jugée. Je n'ai pas dit, elle sera jugée. Juste le fait de penser à être jugée l'immobilise immédiatement. Le dernier point, le dernier ressenti, c'est l'envie qui est un désir inassouvi de liberté et de succès dans le cas d'Anne. L'envie qu'elle ressent envers les autres vient du fait qu'elle aspire à des choses qu'elle pense inaccessibles. C'est-à-dire qu'elle se compare constamment aux personnes qui ont réussi à changer ou à avancer dans leur vie. Et cela génère en elle une forme d'envie, voire de frustration. Je sais que beaucoup d'Anne ressentent de la frustration. Anne observe ces personnes-là avec une admiration teintée de jalousie, c'est-à-dire qu'elle les voit assumer leur vie, elle les voit prendre des risques, elle les voit s'affirmer, elle se dit « pourquoi pas moi ?» Mais dans le même temps, elle se convainc que ces réussites-là sont hors de sa portée, qu'elle n'a pas les mêmes chances ou opportunités que ces personnes-là. Et l'envie la pousse parfois à se décourager, pas parfois, souvent c'est toujours, hein, à se décourager encore plus. Elle se sent comme une spectatrice de sa propre vie, incapable d'agir, tout en voyant les autres réaliser leurs rêves. Cette envie se manifeste par le fait de se dire qu'elle n'atteindra jamais le niveau de l'autre. Anne ne considère pas le chemin parcouru parce que son cerveau n'est pas câblé pour. Pourquoi? Parce que tout ce que l'autre a accompli fait partie dans l'inconscient d'Anne de l'impossible. Donc sa réflexion ne l'amènera pas vers les pas entrepris. Elle ne voit que le produit fini et se dit c'est inatteignable. Et ça vaut tant pour les grandes que pour les petites choses. Je vais vous prendre un exemple simple. J'ai une amie qui est une Anne, mais alors c'est une Anne née. Like, she's just Anne. Et donc, elle me dit un jour, voilà, j'aimerais avoir un profil LinkedIn pour pouvoir mettre en avant, pour pouvoir mieux me présenter et avoir un meilleur boulot, ok? Je lui dis, ah, mais c'est vraiment une très bonne idée. Et moi, je me mets à chercher comment l'aider because je vois que après tant d'années à stagner, je vois enfin une volonté de se relever. Et donc, je lui dis, ok, crée un compte LinkedIn. Ensuite, visite mon LinkedIn à moi et tu verras comment est-ce que je l'ai structuré. And then, based on that, fais ton profil and then on va l'arranger ensemble. On va travailler dessus ensemble. La meuf crée son LinkedIn. La meuf va sur mon LinkedIn. Et qu'est-ce qu'elle me dit quand elle revient vers moi? Ton profil est trop bien. Je donne un profil comme ça. Je baisse les bras. And I was floored. I was like, j'ai demandé, mais tu penses que je me suis réveillée un matin, mon profil était comme ça? Mec, j'ai payé chez Jobbox pour retaper mon profil. C'est pas avec lequel je suis née. Mais comme son cerveau n'arrive pas à process les étapes parce que tout ça relève tellement de l'impossible que, et le résultat de ces étapes est tellement impossible que she's just like, just let me not do it because c'est pas ma portée. Et jusqu'à ce jour, elle n'a pas de profil LinkedIn. Ce qui est dangereux avec l'envie chez Anne, c'est qu'elle peut se transformer en haine et en aigreur. Si jamais elle atteint ce niveau, Anne va devenir exactement comme ceux qui ont fait d'elle qui elle est. Elle va tenter de rabaisser celle qu'elle considère consciemment et inconsciemment comme avoir réussi. Elle va se convaincre et convaincre les autres qui a forcément anguille sous roche, ce succès n'est pas mérité. Elle finira par devenir pour son entourage le bourreau que le sien a été pour elle. Et la boucle sera bouclée, c'est-à-dire que les croyances limitantes seront perpétuées à travers elle, qui en a pourtant souffert. Généralement, on pense que ceux qui ont vécu des drames sont ceux qui sont le moins capables de reproduire ces drames. Pourtant, l'histoire a montré que ceux qui ont vécu des drames sont ceux qui perpétuent ces drames. Par exemple, si vous regardez le profil, because I'm so passionate I'm so passionate about serial killers and stuff like that. Les personnes qui sont généralement les serial killers sont les personnes qui ont été abusées dans leur enfance. C'est-à-dire que parce qu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu, tu te diras logiquement, elles ne voudront jamais faire subir ça à une autre personne. Sauf que c'est ce qu'elles connaissent le mieux, c'est l'espace dans lequel elles naviguent le mieux, donc elles ne font que reproduire ce qu'elles connaissent le mieux en fait. Parce que ne pas être comme ça, c'est une trop grande zone d'inconfort, ça demande un trop grand travail sur soi, une trop grande déconstruction, une trop grande redéfinition. They just go with la zone de confort et ils deviennent eux aussi des serial killers, abusers and stuff like that. Je me souviens, j'avais un ami qui battait sa copine à l'université. Il battait tellement la fille qu'un jour, elle a préféré sauter du deuxième étage où était leur logement. Elle s'est cassée les pieds. Donc, elle a préféré sauter du balcon plutôt que rester dans le logement avec lui. C'est pour dire qu'elle avait tellement peur de ce qui était dans la maison qu'elle a préféré limite se suicider en sautant par le balcon. Et quand je lui ai demandé, c'était un gars vraiment trop gentil. C'était un de mes meilleurs amis. Il était trop gentil. And then, quand j'ai appris ça, I was like, what is that? Parce qu'apparemment, il a frappé depuis longtemps, mais je n'avais jamais su. Et donc, quand je lui demande, il me dit, voilà, et quand il est énervé, il ne sait pas se contrôler, il ne comprend pas pourquoi il fait ça, and whatever. Et donc, pendant des mois, j'essaie de comprendre pourquoi je comporte comme ça. Et pendant ces mois, il continue de battre la fille, parce qu'elle aussi, elle est revenue, parce qu'elle aussi, elle a son niveau d'âne dans sa vie. So, elle est revenue, continue de la bastonner. Et puis, un jour, dans une discussion qui n'avait absolument rien à voir, il me dit que son père bat sa mère. And I'm just like, but this is it. Et c'est ce jour, j'étais à l'université, c'est ce jour-là que j'ai commencé à réfléchir sur le fait que, en réalité, les personnes qui sont exposées à des abus sont les personnes les plus à même de reproduire ces abus-là, au lieu d'être les personnes qui combattent ces abus. And this was groundbreaking for me. Le dernier point qu'on va aborder dans cet épisode, ce sont les tentatives de changement d'Anne, le fait qu'elle ait des résultats mitigés et décourageants. On sait tous ici qu'Anne n'aime pas la vie qu'elle vit. On sait tous ici qu'Anne ne s'aime pas en tant que personne. She doesn't like who she is. She doesn't like the kind of life she's living. She doesn't like the fact that elle ne peut pas se révéler à elle-même et se révéler au monde. So we know that elle vit un très grand mal-être qui se traduit par des épisodes dépressifs, par des problèmes de santé mentale and whatever. On sait qu'Anne vit une vie très difficile, une vie interne très difficile, même si de manière externe, ce qu'elle montre au monde, c'est « I'm okay », vu qu'il faut bien qu'elle leur montre qu'elle est d'accord avec ce que qu'elle montre aux figures d'autorité qu'elle est d'accord avec ce qu'ils lui font vivre, ok? Elle est très heureuse à l'extérieur et très malheureuse à l'intérieur. This is what Anne is going through. Parfois, Anne a des sursauts et elle décide d'essayer des choses pour sortir de sa situation. Donc, lorsqu'elle décide de changer, que ce soit en participant à des challenges en ligne, en lisant des livres de développement personnel ou en écoutant des conseils de coach, elle vit des montagnes russes émotionnelles. Voici ce qui se passe lorsqu'elle essaye de changer. Montée d'espoir suivie de découragement. Au départ, les premières étapes d'un programme ou d'un livre lui donnent un élan d'énergie et de motivation. Elle se sent capable de réussir, mais dès que l'excitation retombe et que les obstacles réapparaissent, elle se décourage. Elle se retrouve vite face à ses anciennes peurs et pensées limitantes, croyances limitantes, ce qui la pousse à abandonner. Ensuite, le deuxième point, c'est la pression du regard des autres. Lorsque ses proches commencent à remarquer ses tentatives de changement, même de manière subtile, cela lui crée une pression interne supplémentaire. Un simple commentaire peut déstabiliser Anne et elle commence à douter de la pertinence de ses efforts. Elle a peur de l'attention que ces changements pourraient attirer et cela l'amène souvent à reculer. L'autre point, c'est le retour en arrière et la honte. Chaque fois qu'elle échoue ou qu'elle abandonne une tentative de changement, elle se dit « je le savais, ce n'était pas pour moi ». Ce retour en arrière renforce son sentiment de honte et la convainc que le changement est impossible. Le sentiment de solitude. En tentant de s'affirmer ou de changer, elle se rend compte que son entourage ne la comprend pas et cela crée une fracture. Elle se sent seule, même entourée, car elle ne partage pas les mêmes valeurs ou les mêmes priorités que ceux qui l'entourent. Et cette solitude est douloureuse et renforce son envie de revenir à l'ancienne version d'elle-même, malgré l'insatisfaction qu'elle y ressent. Si tu as vécu tout ça, know that I'm with you, I'm giving you a hug right now and I'm very sorry that you are going through that. Pour terminer, je dirais qu'Anne fait face à un défi de taille. Ses émotions la retiennent prisonnière d'une vie qu'elle sait ne pas être en accord avec ses aspirations profondes. Mais même si la peur, le doute et la honte sont omniprésents, il est possible pour elle de s'en libérer avec du soutien, des outils adaptés et une compréhension profonde de la source de ses émotions et de son vécu. C'est justement pourquoi je suis là. Sur ce, people, bye. 1, 2, 3, 4.